Our last presenter, but not the least, is Mathieu Lizotte, who is a PhD candidate in sociology at l'Université Laval.
So first time I participate in this network. I didn't realize how bilingual it was, so I think next time I'll make sure to put more details in the PowerPoints because they'll be very useful for those who only speak English. However, I'll be presenting in French, but of course we'll discuss in English afterwards, no problem. Alors, bonjour à tous. Alors, quand Simon Langlois, qui est mon directeur, m'a proposé de faire une contribution au sein de ce partenariat, j'ai sauté sur l'occasion parce que, en fait, à l'origine, Simon aurait aimé que je travaille sur la protection du consommateur, OK? Mais en fait, ce qui est son champ d'expertise, mais moi, j'ai voulu travailler sur un domaine connexe qui est l'endettement des ménages, OK? Et je regrette pas mon choix. Je vais déposer bientôt une thèse qui montre l'endettement des ménages canadiens au cours des années 2000 et l'impact que cet endettement a eu sur les inégalités de patrimoine. Et c'est justement dans le cadre de ce travail que je me suis intéressé finalement à la politique publique et au rôle qu'elle a joué. Dans le cas du crédit à la consommation, si c'était pas, par exemple, pour la loi Lacombe, la loi sur la faillite, la loi sur la protection du consommateur, on aurait un plus grand problème de surendettement. Alors, c'est ça un peu qui m'a donné l'idée ou l'intérêt de faire de la sociologie plus que des intérêts plus terre à terre en termes des politiques publiques. Alors, bien sûr, c'est pour ça que je suis ravi de faire partie de ce réseau. Et selon moi, finalement, la protection du consommateur, je n'aurais pas à vous le convaincre, on est sur la même longueur d'onde, mais c'est un sujet que je considère sous-exploité. Les revendications sociales sont presque uniquement basées sur la rémunération et sur les conditions de travail, mais en fait, une grande partie, il y aurait un grand jeu à faire en améliorant la qualité des biens et des produits et des recours légaux. Surtout pour les populations les plus défavorisées, pour qui prendre une journée de travail pour retourner au commerce, essayer d'échanger un produit peut être très problématique. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter finalement, c'est je vais discuter des nouvelles pratiques de consommation qu'on retrouve dans ce qu'on peut appeler globalement l'économie du partage et discuter de certains enjeux que ceux-ci ont sur les consommateurs. Dans l'exposé, je vais parler de la société collaborative et aussi de la rationalité de l'acteur. Autrement dit, pourquoi les gens participent à ce type de consommation. Les deux autres thèmes, finalement, ça va être plus important pour l'article que je vais écrire avec Simon. Mais on n'aura pas le temps d'en parler là parce que quand même ça va vite. Mais ça serait l'idée de mettre en lien en quoi les enjeux de la société collaborative sont différents des enjeux globaux qui se passent dans les transformations plus macroéconomiques, macro-sociologiques dans le système de production et de distribution. Alors, allons-y. OK. Alors, la société collaborative comporte plusieurs dimensions de l'économie. Bien sûr, dans les biens et les services, mais aussi dans la finance, le transport, l'alimentation et l'espace. Différentes typologies ont été proposées, et l'une des meilleures est celle de Daudet et de Obiang, qui travaillent en France au CREDOC. Pour l'exposer, par contre, alors à quoi ça fait référence? Par exemple, quand je parle de eBay, ça vous dit quelque chose, Amigo Express, Airbnb, Kickstarter, OK? L'économie collaborative est définitivement un phénomène en croissance qui se généralise. Peut-être quelques jalons, si on pense à Kickstarter, en 2014, à chaque jour, cette manière de microfinancement finançait 55 projets quotidiennement, et ça a probablement doublé depuis. Un autre exemple serait peut-être Etsy, qui est une mise en marché des produits artisanaux, qui vendent au-delà de 250 000 produits par jour. C'est gigantesque. Alors, quelles sont les caractéristiques de la société collaborative? Comment la définir? Premièrement, la base, c'est que la société collaborative fonctionne par l'échange entre les pairs. Okay? C'est vraiment le noyau du phénomène. La société collaborative repose de plus en plus sur les nouvelles plateformes de la web qui facilitent la mise en confiance. La confiance étant la condition sine qua non du social, si on veut. Par exemple, si on prend l'exemple du couchsurfing, c'est pas évident d'aller dormir chez un étranger. Alors, comment la confiance s'établit? Ben, s'établit par la plateforme web qui permet de lire la bio des personnes, regarder les photos, lire les commentaires. Et en fait, c'est ce qu'on voit pour toutes sortes de nouveaux commerces dans ce phénomène. La société collaborative nécessite un grand nombre d'utilisateurs, ce qui crée un marché. Et ça, c'est révolutionnaire parce que ça permet, ça rationalise le marché, ça augmente le capital social, le réseau. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça fait une mise en commun de la propriété et du savoir-faire. OK? Par exemple, par la mise en commun, si on pense à Communauto, ben c'est exactement ça, ça met en commun les voitures. Si on pense au savoir-faire, alors un exemple serait les banques de temps ou les selles, les systèmes d'échange locaux. La société collaborative favorise l'usage plutôt que la propriété. C'est un peu la même idée, c'est le partage des biens. Dans la littérature, des fois, on appelle ça, ça permet d'utiliser le dead capital. Finalement, si on achète une tondeuse, on l'utilise juste une fois à chaque semaine, alors pourquoi pas en prendre une ou deux pour un quartier ou une rue, du moins. La société collaborative comprend des aspects marchands et non marchands. En termes d'aspects non, les aspects marchands, vous les connaissez, c'est eBay, etc. Les aspects non marchands sont moins connus. Alors, si on fait comme un peu un bilan des caractéristiques principales, il s'agit du partage de coûts, c'est le covoiturage. Il s'agit du partage de la propriété, j'en ai parlé, partage d'informations, et ça, c'est majeur. Le développement open source, l'échange de services, le troc, etc. L'ensemble des phénomènes ou des activités que l'on classe dans l'économie collaborative ne partagent pas tous ces caractéristiques. En fait, on observe beaucoup d'hétérogénéité dans le phénomène. Plusieurs auteurs ont essayé de montrer c'est quoi la valeur que crée la société collaborative. Il y en a plusieurs, mais selon moi, une des plus intéressantes, c'est qu'elle crée des sources d'informations sur les produits, des informations qui sont accessibles en tout temps, qui ont pour effet de réduire les asymétries d'informations. Alors, essentiellement, ça permet de tendre vers ce qu'on appelle la concurrence parfaite, si on veut, une dimension de la concurrence parfaite, qui est toujours un idéal qui s'est jamais concrétisé dans la réalité. Alors, quelles sont certaines implications pour l'intérêt public? Alors, la loi, bien sûr, doit équilibrer les avantages entre les différents acteurs concernés. Alors, comment protéger le consommateur? Plus que l'économie collaborative se généralise, plus il devient nécessaire de formaliser les contrats, de créer des procédures de recours. Okay? C'est un peu ce qui se passe présentement avec Airbnb et avec Uber. Avec Airbnb, par exemple, ça serait, si on veut louer une chambre à quelqu'un par ce système, on veut s'assurer que la chambre ressemble aux photos, par exemple. Et à l'inverse, il faut aussi protéger l'offreur du service. Si j'offre mon appartement, je veux m'assurer qu'il ne sera pas saccagé. On a vu des exemples un peu sensationnalistes dans les nouvelles de ça. Il faut un autre intérêt, ça serait comment garantir la qualité des produits, comment gérer la concurrence avec le marché établi. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, bien sûr, ça fait référence aux théories classiques sur la régulation. Et c'est aussi, par contre, une des manières qui a été répertoriée dans la littérature, une des manières que l'économie collaborative crée de la valeur. Et c'est en fait, finalement, en dérangeant les industries qui ont instauré des régulations en leur faveur, mais parfois ou souvent au détriment des consommateurs. Un exemple, continuons parce qu'on vient de m'avertir que j'ai une ou deux minutes. J'ai ambitionné. Il y a aussi l'évasion fiscale. Par exemple, plusieurs de ces plateformes opèrent à l'international. Et certaines de ces plateformes, en fait, ont été accusées de faire de l'évasion fiscale, comme Etsy, qui se sont comme assez de s'implanter en Irlande, qui est un paradis fiscal moins bien connu. Je vais juste quand même prendre peut-être une autre ou deux minutes de plus juste pour parler de la rationalité des acteurs. Comme ça, j'aurai eu le temps de parler deux des quatre points de présentation. OK. Dans la littérature, finalement, sur les raisons pour lesquelles les gens participent à ça, j'ai répertorié les raisons principales. OK. Ce qui est intéressant, c'est que ces raisons-là sont vraiment en cohérence avec les valeurs post-matérialistes qui ont été documentées par Engelhardt. OK. Alors, bien sûr, la base, c'est le prix et la qualité. Ça, c'est convenu, c'est des raisons connues. Mais aussi, on voit les préoccupations environnementales, d'où l'importance des diverses certifications qui expliquent pour les produits biologiques, les produits durables, tout ce qui permet de réduire l'empreinte écologique en général. Il y a aussi des raisons de l'éthique. Alors ça fait référence au commerce équitable. Des raisons du terroir et de proximité, c'est parfois vu comme une manière d'appuyer l'économie locale. Des fois, c'est vu comme un vecteur social de changement. Et aussi, les gens y participent pour des convictions politiques. Alors, dernière diapositive. Alors, quelles sont les implications? Alors, comment certifier la source des produits? C'est un enjeu majeur. Il y a certainement des millions, sinon des milliers de dollars de fraude qui se produisent. Si on est prêt à payer plus pour des produits conformes à nos valeurs, alors il faut bien sûr s'assurer que cela soit des produits qui correspondent à ces valeurs. Comment garantir les bénéfices ou les risques du produit? Et aussi, il y a une question de la fiscalité. Si on fait référence, par exemple, au système de troc, au système d'échange locaux, juridiquement, où peut-on établir la distinction entre l'échange marchand qui doit être absolument taxé ou le troc et les échanges de services informels qui sont exempts de taxes? Dans le cas des sels, le phénomène est probablement trop marginal pour que l'État réclame sa part. Par exemple, si on pense à la corderie, l'État ne va pas réclamer des taxes pour les services qui sont échangés. Cet organisme est essentiellement vu comme une manière de lutter contre la pauvreté. Mais par contre, il y a des nouveaux services qui sont en train de sortir, où là, c'est une plateforme entre pairs pour s'échanger des services. Éventuellement, l'État va probablement vouloir s'impliquer là-dedans. Alors, cela, c'est pas nécessairement un enjeu des consommateurs proprement parlé, mais c'est un enjeu indirectement du citoyen qui a l'impact sur les recettes fiscales et sur éventuellement les services que les citoyens et les consommateurs ont de l'État. Alors, ouais, je pense que voilà, je peux finir là.
Hi, thanks. Nice to meet you. We've been emailing.
Yes, nice to meet you.
I'm translating this ahead of time, so I have it. So I have a bunch of comments here. I'll give you my sheet.
Sure.
When I'm done, okay? And you had four streams of thought that you were going to talk about, and the collaborative society, and the social actor, and then changes to the production system. So for time's sake, I'm just going to just address the first two, okay? And I wanted... No, yeah, I'll address the one you addressed, yeah. I liked the idea that you brought the collaborative society to today, okay? I hadn't really delved into that, so I quite enjoyed surfing around behind that. And I think you guys are familiar with the C2C, business to business, consumer to business, business to consumer. I'm going to propose a new one for you. It's Star Wars is coming out. I'm going to call it CP2CP, okay? Which means consumer peer to consumer peer. Because this peer economy and all that kind of stuff, this was new to me and I really enjoyed it. So whether there's anything there to it or not, but it might be kind of fun to play with that. But in the bigger scheme of things, I think we can ask ourselves, do the choice criteria and the standards change when consumers engage in things like Kijiji and stuff like that, okay? And if they do change, should we be looking at it as a research area and what policy instruments might be relevant to that, if any, okay? I mean, we've all had, I've had good experiences on Kijiji. My next door neighbor will not do Kijiji because she doesn't want anyone to see the inside of her house because she doesn't feel safe. She doesn't want them to come in her house, okay? Another thing, too, is that I think I'm suggesting the transactions to the CP2CP, I can't say it's worse than the name of PPOCIR. but those transactions are complex in a different way than in a transactional marketplace, like the regular marketplace. So is there something there that we could explore? And another line of thought could there be changes in non-government organizations, like consumer organizations, and what they advocate for with this peer economy versus what we advocate for now? Okay. Now, in the other one, the social actor, you had the notion of political beliefs and how that affects people's new reasons to consume. And you may have been down this line of inquiry already, but I wondered if you'd explore the notion of political consumerism. Because political consumerism is using the marketplace as an arena to express your political views. There's lots of good stuff out there on political consumerism. Yeah. And the other line of thought, and I'll stop with this one, is that you mentioned ethics as part of reasons why people are consuming. And because I'm interested in the morality of consumption versus the ethics of consumption, to me, ethics is conduct you engage in to make sustainable consumer decisions managing your resources, whereas morality is the judgments that you bring to right or wrong, which come from inside, and ethical conduct usually comes from outside, someone else telling you what to do. So a whole notion of ethics might be balanced with the notion of morality, which is interesting. I know government doesn't want to go there, but consumer researchers might want to think about doing that. So I'll leave it with that, and I'll just give you the handouts when I'm done here. Thanks.
I think I'll do the...
I'm sorry. May I ask you to maybe to react to this, to Sue's comment later, maybe during lunch? I'm sorry. We have to pursue that.
Thank you, Sue. Oh, sorry.